Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
À 18 ans, Julien a choisi de partir en Afrique, poussé par un besoin de renouveau, de lâcher prise et d'ailleurs. Marqué par les rencontres faites en Afrique de l'Ouest, Julien n'a cessé d'y retourner. Je l'ai rencontré au Grand Bivouac à Albertville, où il est venu présenter son film « Voix d'Afrique ».
Tu vois, par exemple, à mon premier voyage, j'ai fait vraiment une rencontre assez extraordinaire dans les derniers jours. C'est ce qui m'a repoussé en fait à revenir au Bénin. J'ai rencontré Adolphe Teacher, qui était un reggae-man togolais et qui venait de se retrouver en exil depuis... ça faisait une année qu'il était en exil par rapport à la dictature qui sévit au Togo. Et c'était donc un chanteur engagé qui dénonçait cette dictature et la politique impérialiste de l'Occident. On a énormément sympathisé. Et ensuite, j'ai voulu l'aider aussi à ressortir un album, ce qui nous a, à l'époque, posé pas mal de problèmes. L'album a été censuré. Le producteur béninois avec qui on travaillait a eu des menaces de mort, etc. Et du coup, c'est tout ça qui m'a lié aussi à l'Afrique et à tout ce que j'apprenais de ces gens-là, cette nouvelle vision aussi du monde, une vision qu'on n'a pas toujours forcément ici, alors que ça traite aussi de notre histoire. On se rend souvent compte, je pense, quand on voyage, que l'histoire qui nous est enseignée et par rapport à notre culture, au point de vue qu'on a en France, c'est toujours une histoire très partielle de ce que peut être aussi la réalité. En voyageant, donc, on se rend compte que, avec différents points de vue de la même histoire, on commence à avoir une mosaïque et que les réalités semblent un petit peu plus denses. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Je sais plus pourquoi j'étais en train de dire ça. Voilà.
Ouais, la musique, le reggae, peut-être le message qui est derrière, le côté un peu revendicatif qu'on retrouve dans cette musique qui est intéressant.
Et oui, exactement. Ça, c'est une musique très. Mais justement, c'est aussi tout ça, après cet engagement qui m'a amené donc beaucoup d'années plus tard, quasiment 10 ans plus tard, là aujourd'hui, à présenter le film au Grand Bivouac là, qui s'appelle Voix d'Afrique. Et qui est justement en fait le témoignage de 6 artistes engagés de différents pays d'Afrique, de RDC, le rappeur par exemple Lexus Legal en RDC, Didier Wadi au Sénégal, Jupiter Bokonji au RDC aussi, Gastino Massamba au Congo, au Bénin, au Togo, enfin bref, différents pays, c'est leur témoignage et en fait on parle de l'Afrique, enfin eux, c'est eux qui en parlent, de leur continent, depuis les indépendants jusqu'à aujourd'hui, en traitant des problématiques, des aspirations, de tout ce qui est lié au post-colonialisme, à la mondialisation, etc., mais aussi aux dictatures, à la répression et aux aspirations des peuples actuels. Parce que c'est vrai que souvent les artistes, en fait, contrairement à, je pense, et notamment en Afrique, aux journalistes ou aux hommes politiques, là c'est encore pire, ils sont réellement en fait la voix un petit peu du peuple, de ce que pense la grande majorité des gens, et c'est aussi pour ça que souvent on essaye de les faire taire. Donc dans ce film, on leur laisse la parole, et c'est appuyé aussi par le témoignage de l'économiste Jean-Joseph Boileau, qui est un économiste spécialiste des pays émergents, notamment de l'Afrique en général, et de l'Inde, de la Chine.
C'est de ça maintenant qu'on va parler, c'est la raison de ta présence ici au Grand Bivouac, donc ton documentaire où tu utilises donc la musique hein, comme vecteur d'idéologie ou d'idées. Peut-être parle-moi de ce projet.
Donc ouais, c'est pas forcément la musique, par exemple il y a un artiste plasticien aussi, mais justement l'art en général. Pendant longtemps j'ai voyagé sans partager mes voyages et j'ai eu l'envie à un moment donné de partager non mes voyages, mais justement... toutes ces vies qu'on rencontre, toutes ces personnes qui ont des choses à dire, et partager ça en fait avec un plus grand monde, tout ce que j'ai pu apprendre de ces gens en voyage ou même ici, hein, partout. Hein. À chaque rencontre, on apprend énormément. Et des fois, bah, c'est l'envie de partager ça et de donner la voix à certaines personnes. Et donc, il y a 2 ans maintenant, 2 ans et un peu plus, j'ai commencé à voyager avec un appareil photo. Et quand j'ai rencontré des artistes qui s'expriment par leur art, je les ai filmés, j'ai fait des interviews et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil conducteur intéressant. Et en début d'année, j'ai interviewé Jean-Joseph Boileau dans le cadre d'un documentaire que j'aimerais faire avec 2 amis, Antoine Guide et Clément Burel, sur la situation du Nord Kivu et du Sud Kivu, la guerre à l'est du Congo. J'avais interviewé Jean-Joseph Boileau pour qu'il donne son point de vue au niveau économique de cette situation. Et on s'est mis à parler de la situation de toute l'Afrique en général. Donc là, je me suis dit que, en fait, en regardant les rushs après, que ça faisait vraiment le lien avec tout ce que les artistes pouvaient exprimer.
Parle-moi de ton film, qu'est-ce qu'on y voit ?
On y voit des artistes qui s'expriment de façon claire et qui racontent l'histoire de leur continent, des indépendances, du moment des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Et on part du premier coup d'État qui a eu lieu au Togo en 1963 avec l'assassinat d'Olympio. Et ensuite, voilà, tous les autres assassinats des chefs d'État qui avaient pris, quand on leur a laissé la démocratie, qui avaient pris le pouvoir par les urnes et qui avaient été élus, la plupart étaient des nationalistes, Nkrumah, Olympio, etc., Lumumba, tout ça. Et du coup, là, l'Occident a vu un petit peu, s'est dit oula, on est en train de perdre tout le pouvoir et le poids économique qu'on a sur le continent. Il va falloir faire quelque chose. Et c'est là qu'a commencé pour la France le réseau qu'on appelle le réseau France-Afrique, avec à l'époque le réseau de Focard, hein, qui avait été chargé par Charles de Gaulle de laisser les indépendances en fait donc aux pays d'Afrique, puisque la gestion de l'après-guerre ne permettait plus de tenir toutes les colonies. Surtout que pendant la guerre aussi, le fait que les tirailleurs soient allés se battre a changé le rapport entre justement a commencé à changer ce rapport entre le blanc supérieur et le noir inférieur, parce qu'ils se sont battus sur les champs de bataille auprès des blancs. Ils ont vu les blancs saigner, ils ont vu les blancs mourir, ils ont vu les blancs pleurer, avoir peur, et ça a changé complètement dans leur tête et dans leur imaginaire la supériorité du blanc. Et venant en Afrique, quand ils ont raconté tout ça, tout le mythe du blanc s'est effondré petit à petit. Et du coup, on a décidé de laisser les indépendances, mais surtout pas de laisser les avantages. Donc on a laissé
Qu'est-ce que c'est que l'indépendance quand tu dis laisser les indépendances ? Parce que dans ce que tu dis, il n'y a aucune indépendance aujourd'hui en Afrique.
Oui, puisque justement, on a voulu en fait laisser les politiques plus ou moins intérieures se gérer. Mais surtout pas tout ce qui était d'un point de vue économique. Donc on a mis des présidents, ils ont commencé à orchestrer des coups d'État pour mettre des présidents qui pouvaient gérer leur pays, maintenir les pays un peu comme ils voulaient, mais enfin bref, même pas vraiment ça, mais et garder par contre qui laissait les richesses et qui continuait à entretenir ça quoi.
On revient sur ton documentaire, hein, qui met en avant différents portraits d'artistes qui ont, à travers ce qu'ils mettent en place, l'envie de communiquer peut-être au plus grand nombre une réalité ou leur vision de l'histoire et leur vision du monde aujourd'hui. J'aimerais que tu me présentes quelques-uns de ces rencontres que tu as pu faire sur le terrain.
Donc tout à l'heure, je vous ai déjà parlé d'Adolf Teacher, le reggae man. Donc voilà, ça fait maintenant 10 ans qu'il est en exil, qu'il vit en exil. Pour avoir chanté contre la dictature des Yadema à l'époque, hein. Après en 2005, Yadema est mort, c'est son fils qui a pris le pouvoir, normal. Et bref, lui est toujours aujourd'hui en exil, quoi. Le Togo, c'est une des plus dures dictatures d'Afrique, là, où il y a énormément de répression et au niveau de la liberté d'expression. Non, c'est quelque chose d'assez. Enfin, ça sera encore long de parler de la dictature du Togo, mais il y a énormément de répression, d'enlèvement, de choses comme ça, quoi. Et même des gens comme, là, je connais un peu Didier Awadi, par exemple, le rappeur sénégalais qui a eu une notoriété mondiale. Et quand, par exemple, il est allé au Togo, Bon, on s'en est pas pris à lui, mais les promoteurs qui l'ont fait venir ont été passés à tabac. Donc maintenant, on n'accepte plus de le faire venir. Ça a été pareil pour Tikenja.
Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir à l'homme, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venus sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser, avoir un bon métier, pouvoir voyager. Quand est-ce que vous appelez liberté? On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici car nous sommes tous en train de péter les plombs.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Qu'est-ce qu'il nous reste quand on enlève vite? On se prépare au voyage et on se jette dans le vide.
Donc c'est des pays où c'est encore très dur. Après, par exemple, au Congo, il y a Gastino Massamba dans le film qui est un artiste plasticien. Qui faisait une exposition au centre culturel à l'époque, au centre culturel de Brazzaville, et qui une semaine après l'interview s'est fait enlever et torturer pendant une semaine. Depuis, j'ai eu quelques nouvelles après, ensuite plus de nouvelles, et j'ai essayé de le contacter par des gens qui m'avaient mis en contact avec lui, et plus personne aujourd'hui a de nouvelles de lui. Il y a Lexus Legal qui est un rappeur congolais. Très très engagé, et qui alors lui se bouge énormément aussi au Congo, qui fait énormément de choses avec les enfants, qui prend place dans beaucoup de débats, qui mobilise énormément la jeunesse, qui est quelqu'un de très dynamique et de très très engagé, qui a des très bons textes. Donc Lexus Legal à écouter, ça c'est top. Pareil, Didier Awadi qui a une vision globale de l'Afrique et assez pertinente, avec des chansons comme J'accuse par exemple, ou SOS Congo, où il parle de la guerre du Congo, etc. Des artistes assez conscients, des problématiques très cultivées, et qui font de la musique avant tout pour s'exprimer, pour passer un message et pour participer au changement en cours.
Mais donc dangereux pour eux.
Oui, dangereux, mais qui prennent ces risques-là.
Et dangereux, pourquoi? Quelle est la menace? D'où vient la menace, selon toi?
La menace, c'est les régimes qui sont mis en place.
Donc quand tu dis mis en place, encore une fois, là, la France-Afrique a main mise sur tout ce qui se passe réellement sur le continent africain.
Non, pas sur tout le continent africain, surtout sur une partie francophone. Mais après, la France-Afrique, ça ne veut pas dire que la France. Et il n'y a pas que la France-Afrique, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi les États-Unis qui sont très implantés, mais il y a aussi la Chine qui est très implantée. Et les rapports changent tout doucement. Et justement, ces réseaux s'effritent un petit peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit aussi une remilitarisation du continent africain. Il n'y a pas eu autant de militaires occidentaux en Afrique que depuis les indépendances, qu'au temps des colonies actuelles. Toute la déstabilisation du Sahara a permis une réimplantation militaire de tous les pays occidentaux qui, en fait, le marché de la France en Afrique a été divisé par deux ces 10 dernières années. Ils ont perdu énormément de marchés parce qu'il y a aussi l'Afrique du Sud qui commence à être puissante, les pays émergents, les BRICS. Et du coup, la France, elle voit ses intérêts s'effriter de plus en plus parce que ça fait de la concurrence sur le marché africain. Hein, parce que les Africains eux-mêmes aussi commencent à essayer de récupérer leurs richesses. Et tout ça, c'est ce qui crée aussi, qui multiplie tous ces conflits qu'on peut voir actuellement. Hein, chacun est... Il faut bien penser qu'on va bientôt être 10 milliards sur la planète, qu'il va y avoir une pénurie relative d'une tas de ressources de matières premières. Et aujourd'hui, le continent africain, c'est plus de 40% de ses ressources. Du coup, c'est une vision sur 30, 50, 60 ans là, qui est en train de se jouer actuellement en Afrique. Et c'est ça qui rend la situation de plus en plus complexe. La France-Afrique s'est énormément effritée. Et puis, il y a eu plusieurs France-Afrique. Il y a eu les réseaux Focar qui se sont ensuite divisés en plusieurs réseaux. Et aujourd'hui, c'est surtout les intérêts directs des multinationales. Mais dans ces multinationales, il y a Areva, il y a Total, il y a Bouygues, il y a Bolloré. Et toutes ces grandes entreprises françaises sont d'une certaine façon, font partie de l'intérêt général de la France. Et du coup, la France, au niveau diplomatique et militaire, défend les intérêts de ces entreprises. Et c'est là qu'on rentre dans le réseau direct de la France-Afrique. Mais c'est pas que ce réseau de la France-Afrique qui gère l'Afrique, non. Il y a tout un tas de choses et on peut pas tout remettre sur le dos de ça non plus. Hein. Les situations sont très complexes. Après, chaque sujet, on peut s'étendre dessus indéfiniment.
Ici au Grand Bivouac, j'entends beaucoup de voyageurs qui vont dans, je sais pas, je pense à l'Asie par exemple, où on dit c'est plus pareil, ça se développe très vite, le tourisme change tout se développe, tout change, tout se transforme. Est-ce que l'Afrique c'est pareil? Tu y étais à 17 ans, aujourd'hui tu as quel âge?
27.
Donc, 10 ans plus tard, est-ce que tu as vu l'Afrique se développer? Ou quelle évolution tu as pu témoigner en 10 ans en Afrique? En Afrique, encore une fois, c'est toujours difficile de parler de l'Afrique parce qu'il y a des Afriques, mais on va dire en Afrique de l'Ouest.
Dans les grandes villes, l'urbanisation s'améliore un petit peu. Après, il y a un gros problème, c'est que l'exode rural continue et ne cesse d'augmenter. Et le problème de l'exode rural, c'est que c'est les bidonvilles qui continuent d'augmenter. Et ça, c'est difficile, quoi. Après, le monde change, effectivement, le monde change. Mais quand un monde évolue aussi, quand un monde évolue, comment? Quand, par exemple, chez nous, je dirais que chaque maison a sa poubelle. Et pour que certains se développent sur la planète, il faut qu'il y en ait d'autres qui ramassent un petit peu ces poubelles. Et par exemple, j'ai des trucs tout bêtes. Hein. On parlait, par exemple, du coltan. Pour faire nos téléphones portables, nos ordinateurs, tout l'électronique, on prend les matières premières en Afrique. On exploite les Africains pour récupérer ces matières premières. Ensuite, ces matières premières sortent de l'Afrique sans passer par un marché africain. Ça veut dire qu'économiquement, l'Afrique ne prend rien là-dessus. C'est envoyé en Asie ou en Amérique du Sud, où là, c'est confectionné, c'est consommé par le monde entier, notamment nous qui sommes les plus gros consommateurs en Europe et aux États-Unis. Aussi beaucoup la Chine qui consomme énormément. Et ensuite, ces déchets, c'est renvoyé en Afrique parce qu'il n'y a pas de normes, parce qu'il y a la corruption. Et du coup, pour s'en débarrasser, c'est moins cher. de remplir des bateaux de tous ces déchets électroniques, de les balancer là-bas, de faire des énormes décharges. Et puis et ben là-bas, on laisse les gens sans aucune protection, sans aucun moyen, séparer tous les métaux, etc., les trier. Donc avec une espérance de vie de 5 à 10 ans maximum. Il y a même des gens, hein, par exemple, des villages qui sacrifient un des jeunes du village pour qu'il aille travailler 5-10 ans là-bas jusqu'à ce qu'il va mourir pour ramener de l'argent au village. Et donc ensuite, ces métaux, une fois qu'ils ont été triés, on les rachète. L'Occident, les grandes entreprises, les multinationales rachètent ces métaux. Et c'est reparti pour se reconfectionner. Donc on voit un petit peu, hein, par exemple, on peut parler de la Somalie. Pendant des années, et ça continue, des paquebots balancent des charges de produits chimiques de conteneurs au large des côtes de la Somalie. Et les conteneurs échouent sur les côtes. D'ailleurs, on pourrait parler de la piraterie, hein, qui date depuis des centaines d'années dans la zone, mais qui a été énormément amplifiée par ce phénomène, où les pêcheurs avaient de moins en moins de poissons et ont commencé à aller voir les bateaux pour leur dire d'arrêter de jeter les trucs. Ils se sont fait jeter, donc ils ont récupéré des armes, ils sont allés dessus, pris en otage. Ils se sont rendus compte que comme c'est tous des bateaux illégaux, enfin la façon de faire, le processus est illégal. Ils payaient les rançons et du coup ils ont commencé à rentrer aussi dans ce schéma. Il y a les terres de Mozambique, énormément de terres au Mozambique ont été rachetées pour enterrer des déchets nucléaires. Bref, il y a l'Afrique qui est maintenue par des chaînes militaires, économiques, avec énormément d'accords justement avec le FMI, la Banque mondiale, qui interdisent les pays en fait à investir, même si les présidents le voudraient, à investir dans l'éducation et la santé. Ça, on oublie de le dire, hein, on les oblige à investir l'argent en fait dans le libre-échange. Et du coup, on laisse un continent sans système de santé, sans système d'éducation, et on le pille. Donc même si les choses commencent à changer, ce qui n'est pas vraiment, qui est beaucoup plus le cas dans les ex-colonies anglaises et beaucoup moins dans les ex-colonies françaises, hein. Par exemple, rien qu'un exemple très rapide, si vous regardez l'Afrique aujourd'hui, tous les pays francophones dans toutes les ex-colonies françaises sont avec le franc CFA, alors que les ex-colonies anglaises ont leur propre monnaie. Chaque pays a sa propre monnaie. Juste déjà pour donner un état. Et maintenant, vous allez regarder ces pays, ces ex-colonies anglaises sont aujourd'hui plus développées que les colonies françaises.
jobless African children. Oh, jobless African children.
Terminer cette rencontre autour d'un sujet qui te tient à cœur. Je vais finir avec la phrase de Gandhi qui dit simplement « Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde. Quel est ce changement que tu souhaiterais voir ?» Que finalement, on est tous complices de la situation qui est en train de ravager. Là, on parle du côté humain, on a des populations sur la Terre, mais aussi on est en train de ravager complètement l'environnement, la planète sur laquelle on vit, celle qui nous nourrit au quotidien. Donc, quelque part, on est vraiment complices de la situation aujourd'hui. Mais toi, Julien, comment tu te positionnes par rapport à ce constat et quel est ce changement que tu aimerais voir émerger dans le monde ?
Ce que tu dis est tout à fait vrai, on est tous complices et moi le premier, et plus que complices, responsables. On a tous une part de responsabilité dans la situation du monde, mais surtout, et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a des responsabilités sur nos actes, enfin dans ce qu'on voit tous les jours, mais aussi à l'autre bout du monde. Des actes qu'on fait chaque jour ont des conséquences à l'autre bout du monde. C'est l'effet papillon. Et la phrase de Gandhi que tu cites est vraiment une des choses essentielles. Et aujourd'hui, je pense réellement que effectivement, pour changer le monde entre guillemets, hein, il faut commencer par se changer soi-même. Et avec toute l'humilité qu'on peut avoir. Et je pense que le plus gros travail qu'on doit faire, c'est sur la conscience. Essayer d'élever, d'ouvrir chaque jour un petit peu notre conscience pour prendre justement conscience de la diversité, mais aussi de l'essence de la vie, du respect qu'on doit avoir à la vie. Au quotidien, dans chacun de nos actes, et élever notre conscience au-delà de notre propre individualité, prendre conscience que chaque chose, que tout est un, que tout est lié, même d'un point de vue matériel et d'un point de vue aussi beaucoup plus large, et que du coup, se respecter, respecter l'autre, c'est aussi se respecter soi. Respecter la nature, c'est aussi se respecter soi, parce que c'est vrai que l'homme aussi a souvent tendance à se différencier de la nature, même quand on parle d'écologie. C'est un constat qui est assez drôle. On dit par exemple qu'il faut protéger la nature comme si on n'en faisait pas partie. On oublie qu'on en fait intégralement partie, de la même façon qu'un arbre, de la même façon qu'une fourmi, qu'une pierre, que l'air qu'on respire. On fait partie de cette nature, et quand on est même pas lié à elle, on est la nature. Et du coup, quand, comme tu dis, on lui fait du mal, c'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. Et je pense qu'aujourd'hui, l'humanité ne peut pas être bien si le reste de la nature ne l'est pas. On ne peut pas être équilibré en soi si le monde n'est pas équilibré. Mais pour équilibrer le monde, il faut que chacun travaille sur son propre équilibre. Et c'est pour ça, c'est là où Gandhi, je pense que j'aime beaucoup cette phrase de Gandhi, où effectivement, il faut essayer d'être au maximum ce que l'on veut que le monde, que le monde s'améliore. Parce que je pense réellement que le monde est un miroir de nous-mêmes.
Donc on n'est ni dépendant, ni indépendant, mais bien tous interdépendants. Merci Julien Masson, merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.